ici. ICI. Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h. Ici, soutient la musique locale.
Au-delà, Owa. C'est la rencontre de Nadia Simon et Laurent Sureau, un duo qui crée un univers pop trip-hop singulier, porté par la voix puissante de Nadia et les textures électro-percussives de Laurent. Ici même.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ICI Azur.
La raison 180 qui s'intitule « De la Riviera à la Côte d'Azur ». Alors aujourd'hui, on va parler de deux noms qui ont marqué notre littoral. Alors certes, pendant longtemps, on disait la Riviera, mais aujourd'hui, tout le monde parle de la Côte d'Azur.
Oui, et puis chez les anglophones, le terme French Riviera est resté.
Exactement, et en effet, c'est à partir du XVIIe siècle que l'on commence à désigner sous le nom de Riviera la bande côtière montagneuse qui va de la Spezia en Italie jusqu'au fleuve Var. Étymologiquement, le mot est un emprunt à l'italien et dérive du latin ripa, qui signifie rive ou rivage. Dès la fin du XVIIIe siècle, Nice devient d'ailleurs le premier lieu de villégiature d'hiver de cette côte, alors réputée difficile d'accès. On y découvre la douceur du climat, la beauté du paysage entre mer et montagne, la végétation exotique et le mode de vie local. Et il faut savoir, nous ne sommes pas seuls. Au XIXe siècle, apparaissent d'autres rivieras en Dalmatie, en Crimée et autour des lacs alpins.
Mais aujourd'hui, tout le monde parle de Côte d'Azur.
Et ce terme, on le doit à un homme politique et écrivain bourguignon, Stephen Liégeard. Originaire de Dijon, il séjourne à Cannes l'hiver et publie en 1887 La Côte d'Azur. Il décrit de Marseille à Gênes cette plage baignée de rayons qui mérite notre baptême de Côte d'Azur. Il va avoir cette voix là, je suis sûr.
La voix de Stéphane Bern,
ouais. Oui. D'ailleurs, il publiera quelques années plus tard une nouvelle édition et notera dans son avant-propos « Le dictionnaire s'est augmenté d'un mot ».
Mais alors, pourquoi il a choisi ce nom Côte d'Azur ?
Eh bien, je vous ai dit qu'il était originaire de Dijon, et oui. Dijon se trouve dans la Côte d'Or. En fait, il a simplement transposé l'idée en l'adaptant à la couleur qui caractérise notre mer et notre ciel, l'azur. Dans les années qui suivent, des guides de voyage reprennent l'expression. Elle devient synonyme de luxe hivernal et de villégiature aristocratique. Puis, dans les années 1920-1930, le tourisme se démocratise, la saison balnéaire d'été se développe et la Côte d'Azur devient l'appellation phare dans les affiches des compagnies de chemin de fer et d'hôtels. Ce sont enfin les offices de tourisme, les communes et le département des Alpes-Maritimes qui renforcent l'usage. Et c'est ainsi qu'on est passé de la Riviera à la Côte d'Azur. Un territoire prestigieux, riche d'histoire et de culture. Et il y a toujours quelque chose à découvrir.
Et ça, c'est une bonne raison d'aimer la Côte d'Azur.
En plein dans le mille.
Ici.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Squad down to Gonky Park. Listen.
Sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Paris Île-de-France.
6h20, il est temps de donner une nouvelle fois la parole à une personnalité qui fait briller notre région. Les gens d'ici, au micro de Romain Bruno aujourd'hui. Romain va rencontrer pour nous un amoureux de sport, passionné du Paris Saint-Germain. Parfait, surtout quand on sait que le PSG affrontera Tottenham ce soir au Parc des Princes en Ligue des Champions. Un invité qui va sûrement vous surprendre avec des infos étonnantes sur ce stade mythique. Bonjour Romain, vous êtes avec lui au pied du parc.
Eh oui, je suis avec notre invité. C'est un spécialiste du sport, un amoureux du sport et de tous les sports, ici au pied du Parc des Princes, Alain Vernon. Bonjour.
Bonjour à tous.
Ancien journaliste de Stade 2, quelle belle émission Stade 2 qui fête cette année son anniversaire.
Et oui, Stade 2 est né le 28 décembre 1975, donc cette année ça fait exactement 50 ans. Et d'ailleurs on va fêter ça à nous les anciens.
Alors ici, au pied du Parc des Princes, qui à l'origine, Alain, ne s'appelait pas Parc des Princes.
Oui, c'est l'ancien stade Vélodrome, ancien Vélodrome de Paris, où le Tour de France y a fait beaucoup d'arrivées. Et puis en 72, eh bien, est né ce magnifique Parc des Princes, où on joue aujourd'hui les princes du parc, comme l'on dit fréquemment.
Ce Parc des Princes, les supporters y sont attachés.
Oui, parce que c'est un stade qui est en cœur de ville, hein, qui est proche des métros, proche de beaucoup de moyens de transport.
Et je vous regarde là, vous avez les yeux qui pétillent devant ce terrain mythique.
Oui, on y a vu toute l'ascension, toutes les épopées, toute l'histoire du Paris Saint-Germain. On y a vu jouer l'équipe de France. On y a vu jouer également des matchs de Coupe du Monde féminine en 2019. Et puis, j'y ai joué moi-même. Oui, j'ai joué avec France Télévisions des tournois de la presse. J'ai joué avec mes amis journalistes comme Patrick Chêne, Gérard Ross. Mais bon, voilà, avec mon ami Dominique Leglou, on a joué aussi avec pas mal Vincent Guérin, l'ancien du PSG, l'ancien milieu du PSG, ce qui est toujours un régal, évidemment. Et puis j'y ai commenté des matchs, évidemment, pour la Coupe du Monde 98, dans ce grand stade qui est très très apprécié par toutes les équipes d'Europe et toutes les équipes françaises.
Alors, pourquoi il est apprécié ?
Parce que c'est un peu un stade à l'anglaise, il n'y a pas de piste d'athlétisme comme en Allemagne par exemple. C'est un stade où on est proche des joueurs, qui a une architecture quand même assez moderne et toujours très futuriste, et chaleureuse. Les supporters sont près des joueurs. Quand on est en bas des tribunes, il y a cette proximité où on a l'impression parfois, oui, d'être sur le terrain, d'entendre ce qu'ils disent, d'entendre les coachs. Et vraiment, ce Parc des Princes, il est super. Si on est derrière le but, on entend ce que dit le gardien. Non, moi j'aime ce stade. Bien qu'il fût construit en 1972 et restauré pour l'Euro 84.
Eh bien, tous au Parc des Princes pour supporter nos rouges et bleus. Merci Alain Vernon.
Eh bien, merci à vous.
Alain Vernon, ancien journaliste de Stade 2, devant ce stade mythique qu'est le Parc des Princes.
Ouais, merci beaucoup Romain Bruno et merci à votre invité Alain. Le PSG qui affrontera donc Tottenham ce soir au Parc des Princes, un match à suivre en intégralité et gratuitement sur la radio des supporters du Paris Saint-Germain et aussi sur notre chaîne YouTube 100% PSG. N'hésitez pas à aller regarder ça.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici au Serre.
Itinéraire bis à Joigny cette semaine. Aujourd'hui, je vous propose de vous arrêter aux couleurs Le Roux. Marcel Reynaud, bonjour.
Bonjour.
Ces couleurs Le Roux, il y a toute une histoire, Marcel, derrière.
Oui, c'est une longue histoire qui dure depuis 115 ans, avec différentes étapes, différents mouvements de peinture aussi parmi les clients. Certains participent à l'histoire de l'art.
Les caractéristiques de ces couleurs, quelles sont-elles ?
Le roux est un très très haut de gamme, donc en fait ça vient d'un taux de pigment dans le tube, dans la couleur. Ce sont des pâtes traditionnelles telles qu'on avait au 15e siècle, au 16e siècle, etc. Donc rien n'a changé de ce côté-là. En fait c'est le respect du pigment avec un très bon broyage, une très bonne huile de lin ou une huile aussi de yette, qui est donc du coquelicot. Et on respecte la tradition, on est la meilleure marque, je pense, sincèrement, en France, ça c'est sûr, et peut-être en Europe aujourd'hui.
Respecter la tradition, ça veut dire que ces couleurs, ces peintures, sont faites à la main ?
Quasiment. Alors le broyage, lui, n'est pas fait à la main, parce qu'il faut une force considérable. Donc en fait, depuis un peu plus d'un siècle maintenant, les couleurs pour artistes se font à l'aide de broyeuses qui pressent la pâte, de pigment, donc jusqu'à avoir une pâte homogène. Et cette pression par les rouleaux est fantastique, ça a même amélioré la peinture à l'huile par rapport à ce qui se faisait dans le temps.
Comme la cuisine, il y a de vraies recettes.
Ah oui, ça, oui, chaque pigment a sa propre recette. Ça, c'est très important, puisque suivant la composition chimique du pigment, la prise d'huile, ce qu'on appelle, n'est pas la même du tout d'une couleur et une autre. Et même, quelquefois, sur la même veine chimique, par exemple, l'outremer clair et bleu outre-mer foncé, qui sont très proches au niveau du ton, les quantités d'huile, la quantité d'huile pour chacun de ces pigments n'a absolument rien à voir, le temps de broyage non plus.
Des peintres, des artistes qui font confiance ou qui ont fait confiance aux peintures Le Roux ?
Il y en a beaucoup. Dans les plus célèbres, évidemment, que tout le monde connaît, il y a Dali, il y a Picasso. Aujourd'hui, on a Anselm Kiefer, qui est un peintre allemand qui vit en France, qui est mondialement connu. On a aussi des peintres extraordinaires, comme Eugène Leroy. Et en plus, c'est un peintre qui travaille beaucoup en matière. Et on se rend compte aujourd'hui qu'aucune toile n'a bougé. Alors qu'il y a 1 ou 2 centimètres d'épaisseur sur ces toiles. Et absolument aucun dommage sur ces toiles actuellement. C'est parfait.
D'ailleurs, nous, il y a l'atelier. Et c'est un atelier assez extraordinaire, hein, quand même.
Ben oui, déjà, l'atelier, les outils qui sont dedans, certains ont plus de 80 ans. Les broyeuses ont plus de 50 ans maintenant. C'est dans son jus. C'est un musée vivant. Hein. Et ça le restera. C'est très haut de gamme. Il y a une âme. Je pense qu'on ressent une âme. Qu'on soit peintre ou pas, quand on rentre dans cet atelier, on sent qu'il y a quelque chose. Quoi.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Bourgogne.
Contes et légendes d'ici, tous les week-ends avec ici Bourgogne.
Il était une fois une légende à Santenay. Nous sommes en territoire viticole, toujours en Bourgogne. Cette histoire s'appelle Les Teux Blancs de Santenay. Un conte de Sandra Amani de l'ouvrage « Légende du vignoble » édité chez l'Escargot Savant. Bonjour Sandra.
Bonjour Charlotte.
Les teux blancs de Santenay, c'est un rapport avec le vignoble ?
Oui, vous allez le comprendre en écoutant cette histoire. Nous sommes le 16 juillet 1919. C'est un grand jour à Santenay. Des milliers de fleurs ont été accrochées aux portes et aux fenêtres du village. Les cloches de l'église carillonnent à toute volée et les dames portent de longues robes claires et de beaux chapeaux. Lucille, la fille d'un des plus riches fermiers du village, épouse Norbert. Un ancien soldat, issu d'une famille plus modeste, qui s'est joliment distingué durant la guerre. Mais à présent, il a décidé de déposer les armes et de renoncer à cette noble fonction pour demeurer près de sa belle. Le travail ne manque pas à la ferme. Le père de Lucille possède aussi de beaux hectares de vignobles. Norbert est certain de ne jamais s'ennuyer.
Oh, quelle chance d'être au bras de Lucille. Une fille aussi belle et aussi riche. Oh, mais qu'elle était longue, cette messe. J'ai cru qu'elle n'en finirait jamais.
Norbert n'a qu'un seul défaut. Il ne croit pas en Dieu. Il faut dire que les horreurs de la Grande Guerre ne l'aident pas à retrouver la foi. Lucille, elle, par contre, est très pieuse.
Mon jeune époux accepte au moins d'aller à la messe le dimanche.
Les jours passent. Lucille est heureuse. Norbert est devenu un fermier travailleur. Mais certains matins, il revoit du sang jaillir de la terre. Cependant, bien vite, il oublie les bombes et fait repartir ses magnifiques bœufs tout blancs dans son champ. Le soir, il peste auprès de sa jeune épouse, toujours en train de prier pour un oui ou pour un non.
Si ton Seigneur existait, il n'aurait pas permis tous ces morts dans les tranchées. Il n'aurait pas toléré les larmes de toutes ces pauvres femmes qui pleurent aujourd'hui, un mari, un fils, un frère.
Lucille ne répond plus. Elle préfère garder son calme. S'énerver pourrait nuire au bébé qui va arriver prochainement. Nous sommes le 10 juin 1920. Il fait un soleil superbe à Centenay. C'est la fête Dieu. Sur les coteaux, les vignes se prélassent dans leurs jolies robes vertes. Les villageois se préparent à assister à la grande messe. Mais dans la ferme de Lucille, le climat est loin d'être aussi serein. Norbert ne veut rien entendre. Il n'ira pas à l'église. Au lieu de cela, il travaillera dans les champs.
Je t'interdis formellement d'atteler les bœufs ce matin. Au moins, si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour ton âme, mon chéri.
Norbert sort de la maison en claquant la porte. À midi, de retour de l'église, Lucille ne trouve pas son mari et décide de partir à sa recherche.
Oh, je vais aller voir au champ. Il doit y être avec les bœufs, pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Tiens, quel est le plaisantin qui a amené ces trois rochers dans mon champ? Bon, ils ne gêneront pas le labour, c'est déjà ça.
Le soir tombe, Norbert ne revient pas.
Mais où peut bien être le jeune époux de Lucille? Pourquoi ne revient-il pas dans sa ferme à Centenay?
Ici Bourgogne vous raconte les contes et légendes de votre région.
Quelques mois après la fin de la Grande Guerre, un jeune couple s'est dit oui pour la vie à Centenay. C'est la légende des Teux Blancs de Centenay, de l'ouvrage « Légende du vignoble » édité chez l'Escargot Savant et écrit par Sandra Amani.
Norbert, ancien soldat traumatisé par la guerre et jeune marié, est toujours absent. Lucille, sa femme, est enceinte, mais garde espoir depuis ce fameux dimanche où Norbert a préféré aller labourer son champ plutôt que d'aller à l'église. Dans le village, la rumeur de sa disparition prend de l'ampleur.
Ah, quel salaud ce Norbert! En plus, il est parti lâchement en emmenant les bœufs et la charrue.
Un matin, un sentiment étrange pousse Lucille, sur le point d'accoucher, à se rendre dans le champ sous la roche fendue de son village, Centenay. Nous sommes en mars. Son gros ventre la gêne un peu pour marcher. Courageuse, elle lutte pour son enfant. Arrivée dans le champ, elle est saisie d'une violente douleur au ventre.
Appuie-toi contre moi.
Lucille a si mal qu'elle ne prête pas attention à cette voix lointaine d'homme. Machinalement, elle s'assied au pied du plus petit des rochers qui se trouve à côté d'elle. La douleur cesse et Lucille finit par s'endormir.
Repose-toi, tendre Lucille. Ton mari veille sur toi. Je ne t'ai jamais abandonnée. Je suis là, près de toi, avec nos bœufs et la charrue. Le Seigneur s'est vengé de mon impiété et m'a sévèrement puni. Ces trois rochers que tu vois là, c'est nous, les bœufs et moi. S'il te plaît, prie pour mon âme et tu me délivreras pour l'autre monde.
À son réveil, Lucille comprend pourquoi son mari n'est jamais revenu. Elle regarde un par un ces trois rochers.
Mon amour, bientôt tu ne souffriras plus. Je vais prier nuit et jour pour sauver ton âme.
Lucille se lève péniblement. Les contractions sont de plus en plus intenses. Le bébé sera là ce soir, elle en est certaine. Elle quitte le champ. Bientôt, elle reviendra près de ses rochers avec son fils ou sa fille. Et elle lui parlera de Norbert avec tendresse.
Au
Aujourd'hui, on peut encore voir les trois blocs de pierre situés en dessous de la roche fendue. On les nomme les teux blancs de Santenay.
Eh oui, Charlotte. Le mot teux signifie roche dans les régions viticoles de Bourgogne. Il peut aussi désigner la falaise.
Heureusement, l'âme du pauvre laboureur n'est plus prisonnière de la pierre de Santenay depuis longtemps déjà. Malgré tout, si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez encore entendre Norbert guider ses bœufs à travers champs et Lucille qui l'accompagne joyeusement en chantant.
Écoutez ici.
C'est 100%.
100% chanson française.
Salut, ici, c'est Manon Lisa. On écoute ensemble ma nouvelle chanson. Le Petit Pêcheur, le nouveau titre de Manon Lisa.
Un coup de cœur ici.
C'est l'histoire d'un petit pêcheur qui pêchait que le matin. Parce que pour lui, le bonheur, c'était d'être avec les siens. Profiter de sa famille, les arder sur le sable. Regarder grandir ses filles, les après-mêmes, au calme. Un jour qui se reposait, à côté de sa barque. Une question lui fut posée par un homme d'affaires en cravate. À quoi te sert de dormir sur le port alors qu'au fond de la mer, tant de poissons nagent encore? Pour construire un empire, taf sans compter tes heures. Avec l'argent que t'en tires, t'achèteras un moteur. T'iras pêcher au large, tu feras plus de marge. Bientôt t'auras 10 bateaux, des bâtiments en béton. Crustacés, cétacés, finiront tous entassés dans les filets carnassiers de tes chalutiers en acier. Découleras tes stocks en faisant des filets aux fiches. La moula que tu croques, faudra pas la filer au fisc. Elle a un port, export, dans les dollars tu nageras. Les fonds marins seront morts, mais t'auras une vie de roi. C'est quoi pour toi une vie de roi, dit le pêcheur? Une vie de roi, c'est pouvoir pendant des heures profiter de ta famille, les arder sur le sable, regarder grandir tes filles, les après-mêmes, au calme. Mais c'est déjà exactement ce que je fais. Et le pêcheur s'en alla en fredonnant ce refrain. J'aime, j'aime quand la vie est facile. J'aime, j'aime quand le soleil brille. J'aime, j'aime quand l'amour nous fait signe, souffler sur tes cils. Te dis gagne ta vie comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Cotentin.
Pour moi, c'est important, c'est d'aider les gens. Moi, j'aimerais bien dans les restaurants parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent et ça aide les gens à manger.
Moi, je voudrais être maquilleuse et coiffeuse parce que j'aime bien maquiller et coiffer.
Moi, j'aimerais bien être militaire pour sauver mon pays quand il est en guerre.
Moi, je... Oh, je sais pas.
Bah, j'aimerais bien faire majorette, pompier.
Tu serais en tenue de majorette pour être pompier, c'est quoi l'idée?
Bah, il faut pas être majorette alors, parce que si on les garde quand on fait les majorettes, bah après, ça va être trop tard, je vais louper. Oh. Et aussi, c'est beaucoup de travail être pompier, parce que mon père est pompier, c'est-à-dire que c'est beaucoup de travail quand je le vois garder le travail.
Donc tu préfères être quoi? Plutôt majorette ou plutôt pompier alors?
Pompier.
La maison de retraite. C'est aider les personnes âgées à faire des activités, les aider à aller quelque part.
Moi, quand je serai grand, je voudrais faire des vidéos, un peu de tout.
Monte. Ça tourne, le moteur. T'entends pas les bruits. Ça tourne, oui.
Ça tourne.
Ça tourne ici, c'est ça, déjà pas là. Bon.
Action.
Si moi, ce que j'aime... Parce que pour moi, c'est important, c'est d'aider les gens à les nourrir, à
à les soigner, à faire tout ce qui est bien pour la santé.
Moi, j'ai deux choses que je pense que j'aimerais bien faire. C'est être joueur de foot à Paris ou France ou Caen ou autre chose et être maçon.
Ça n'a rien à voir.
Mon tonton, il fait maçon. Du coup, t'as des idées pour construire des cabanes à tes enfants après.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Béarn Bigorre.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Affaires classées, le podcast. Nous consacrons cette semaine, cet épisode, au célèbre compositeur basque Maurice Ravel, le père du boléro. Savez-vous que cette œuvre magistrale remonte à 1928. Depuis son décès en 1937, d'étranges appétits se sont aiguisés autour de la manne des droits d'auteur. À qui profite-t-il ? Réponse dans un instant.
Affaires classées. Un podcast ici.
En mars 1875, Marie Deluard, une jeune basquaise mariée à Joseph Ravel, un ingénieur né en Suisse, accouche à la maison Estebania. Une imposante demeure au style hollandais qui rappelle le glorieux passé de Cibourg et sa voisine Corsaire. C'est ici que vient au monde un garçon prénommé Maurice, qui sera baptisé peu après à l'église Saint-Vincent. Le couple quitte rapidement la côte basque pour rejoindre la capitale où il emménage dans le quartier pittoresque de Montmartre, où l'enfant grandit au milieu de musiciens et d'artistes qui détermineront pour beaucoup sa future carrière. Maurice révèle très tôt des talents de mélomane. Ses parents n'hésitent donc pas une seconde à l'inscrire au sein de grandes écoles où il apprend aisément le solfège. À force de travail, de passion, Ravel devient un compositeur de renom dont la notoriété dépasse vite les frontières de la métropole. Il a 54 ans en septembre 1929, quand sa ville natale lui rend hommage en baptisant de son nom le quai où il est né. Peu avant, la danseuse et mécène Ida Rubinstein lui a passé une commande qui va bouleverser la suite de son existence. Elle recherche pour sa troupe un ballet d'inspiration hispanisante et songe sans hésiter à Ravel afin qu'il mette en musique Iberia d'Albéniz, l'une de ses œuvres préférées. Mais les droits d'auteur ne sont pas libres. Alors, le compositeur basque est pris d'angoisse. Il n'a que 3 mois pour composer un ballet que l'on veut inédit, fulgurant et dont la première est programmée à l'Opéra Garnier de Paris le 22 novembre 1928. Ravel se met au travail, à la vitesse de l'éclair. Il compose un thème arabisant de 16 mesures, soit 2 mélodies uniques répétées chacune à 9 reprises dans un immense crescendo orchestral rythmé sur un air donné par un ostinato rythmique imperturbable. Ça y est, le boléro est né. L'œuvre est révolutionnaire pour l'époque car Ravel s'éloigne de la musique occidentale moderne et surtout, sa création fait appel à des sonorités nouvelles comme le saxophone.
Affaires classées avec Thierry Sagardoito.
Dans ses notes ultimes, le boléro donne l'image de s'effondrer sur lui-même comme un château de cartes. Nous sommes un an avant la crise économique mondiale de 1929. Ravel pressent-il les incertitudes de ce fragile entre-deux-guerres à l'avenir si sombre ? Le crescendo du boléro vaudra en tout cas de l'or. Au soir du 22 novembre 1928, le public se bouscule dans les couloirs et travées du Théâtre National de l'Opéra, au cœur du rutilant Palais Garnier, dans le 9e arrondissement de la capitale. Sous la baguette de Walter Straham, l'orchestre et les ballets d'Ida Rubinstein émerveillent le public dès la première. La critique parisienne vante sa somptuosité quand, Le Figaro souligne, je cite, « les dons singuliers de Ravel pour cet opus décrit comme puissant, coloré et lancinant ». Mais si le public se régale de ce délice d'élégance, Ravel brille par son absence. Oh, non pas qu'il s'en désintéresse, mais le même soir, il donne un concert à l'ambassade de France à Madrid en l'honneur de l'inauguration de la Casa de Velázquez. Il est de retour à Paris pour la quatrième et dernière représentation au soir du 4 décembre. Le Boléro prend ensuite la route des plus grandes scènes de la planète. Milan, Vienne, New York, Monte-Carlo. C'est un triomphe. De son chef-d'œuvre, Ravel dit humblement « Le Boléro, il est vide de musique. » Traduisez, ce ballet composé en moins de 3 mois utilise l'orchestre comme un laboratoire instrumental, mais il s'inscrit à contre-courant de la musique du moment. Célébré partout à travers le monde, il profite pourtant peu de sa soudaine fortune. Ravel vit reclus, en solitaire, au sein de sa maison de Montfort-l'Amaury dans les Yvelines, où il s'éteint 9 ans plus tard, le 28 décembre 1937, des suites d'une maladie cérébrale mal soignée. Ravel n'a aucun héritier. Et tandis que le Boléro poursuit son ascension vertigineuse, débute alors une extraordinaire saga judiciaire autour des droits d'auteur que génèrent les 17 minutes de l'œuvre musicale la plus écoutée sur la planète depuis bien longtemps.
Affaires classées, un podcast ici Béarn Bigorre.
En France, le Boléro restera hissé à la première place du classement mondial des droits de la SACEM jusqu'en 1993. Chaque année, l'indémodable valse rapporte ainsi l'équivalent d'1,5 million d'euros dans les caisses de l'organisme français chargé de collecter les droits d'auteur. Un pactole qui va exciter la gourmandise de certains. À sa disparition, Ravel n'avait laissé aucun testament et c'est donc son frère cadet, Édouard, un industriel installé à Saint-Jean-de-Luz qui devient légalement l'héritier de l'œuvre. Il crée la fondation Maurice Ravel qui transforme son ancienne demeure, appelée le Belvédère, en un musée à sa gloire. Sage précaution. Mais en 1954, Édouard et son épouse sont victimes d'un grave accident de la route alors qu'ils se rendent à Lourdes. Le couple en ressort extrêmement diminué. Édouard fait la connaissance de Jeanne Taverne, une vendeuse de colibris de 48 ans qu'il embauche en qualité de masseuse. Mais 2 ans plus tard, Angèle, son épouse, décède des suites de l'accident. C'est Jeanne qui devient la gouvernante de maison. Mariée à Alexandre, un ancien mineur devenu chauffeur, elle s'installe dans la villa lusienne de son patron. Un dévouement sans doute intéressé, car Jeanne sait qu'Édouard Ravel est devenu immensément riche grâce à l'héritage de Maurice. Sa santé décline. Alors, que faire d'un tel magot ? Veuf, Édouard Ravel songe à mettre Jeanne, la gouvernante, et Alexandre, l'époux improvisé chauffeur, à l'abri du besoin, en leur cédant sa villa lusienne. Mais en 1958, l'Opéra Garnier organise un gala qui célèbre les 20 ans de la disparition du père du Boléro. Durant ce séjour dans la capitale, Édouard change d'avis. Il promet de céder à la ville de Paris 80% des droits d'auteur de son frère afin de créer un prix Nobel de musique. Quand il revient au Pays Basque, la gouvernante apprend la nouvelle. « Mais vous n'y pensez pas, monsieur » lance-t-elle, furieuse et surtout inquiète de voir ce magot s'évaporer ailleurs. Fragile de santé, Édouard Ravel va donc changer d'avis.
Affaire classée avec Thierry Sagardoito.
Comme par enchantement, Jeanne Taverne devient sa légataire universelle. En attendant le décès du vieil homme, la bonne dame ne tient plus en place à l'idée de devenir un jour immensément riche. Mais il y a un hic. Jeanne devra d'abord acquitter de colossaux droits de succession. Une idée machiavélique germe dans sa tête. Jeanne pourrait se marier avec Édouard Ravel afin de diminuer l'addition. De quoi rendre la veuve très joyeuse le jour de son décès. Mais il y a un obstacle. Jeanne est déjà mariée avec Alexandre. Il lui faudrait donc d'abord divorcer d'Alexandre, se dépêcher de passer la bague au doigt de son patron avant qu'il ne décède. Jeanne se précipite chez un avocat bayonnais. Elle veut divorcer séance tenante. Quelques mois plus tard, et alors qu'Édouard Ravel, 81 ans, s'apprête à prendre la main de sa gouvernante, il décède une semaine avant le mariage. Patatras ! Sitôt Édouard inhumé, Jeanne et Alexandre Taverne vont aussitôt se remarier devant monsieur le maire de la cité lusienne. Jeanne n'est certes pas la veuve d'Édouard, mais elle est en tout cas sa légataire universelle. Malgré le joli chèque qu'elle doit signer au percepteur au titre des droits successoraux, elle hérite d'un fort joli pactole. Mais sur la côte basque, nul n'est dupe. Le couple Taverne est prêt à tout pour faire main basse sur l'héritage des droits d'auteur du célèbre Boléro. C'est alors qu'entrent en scène les époux Marc et Marcel Perrin. Ces deux lointains cousins de Maurice Ravel arrivent de Suisse. Ils sont donc héritiers naturels et ils vont réclamer leur part du gâteau en lançant un procès au tribunal de Bayonne contre les époux Taverne. Ils les accusent, je cite, « de captation d'héritage ». De recours en recours, l'instance durera 10 longues années. Mais, faute de démontrer qu'Édouard Ravel était sous la coupe de sa gouvernante, la justice les déboute. Pour les époux Taverne, c'est maintenant le rêve. Ils sont millionnaires et ils vont s'offrir enfin la luxueuse villa de leur rêve à Biarritz. Une villa qu'ils baptiseront le Belvédère, en hommage à celle qu'occupait Maurice Ravel dans les Yvelines lors de sa disparition.
Affaires classées, un podcast ici Béarn Bigorre.
Le couple Taverne mène grand train, s'offrant de belles voitures, des chevaux de course. Ils vont malgré tout se donner bonne conscience en improvisant un musée Ravel au Pays Basque. Il sera inauguré en grande pompe sous les clichés de la presse locale avec des textes, des partitions, des objets personnels de feu Maurice Ravel. Jeanne Taverne décède en 1964 et c'est donc son époux Alexandre qui va hériter. Il pose en photo avec la canne à pommeau d'or du compositeur disparu. Héritant de 48,6 millions d'euros de droits d'auteur, il épouse à présent Georgette, une pétillante manucure teintant blonde, native de Biarritz et qui s'installe à son tour au Belvédère. La fortune, c'est bien, mais la gérer intelligemment, c'est mieux. Entre alors en scène Jean-Jacques Lemoine, qui n'est autre que l'ancien directeur juridique de la SACEM. Le dossier Ravel, il le connaît sur le bout des doigts. Alléché par la cagnotte du Boléro, il prend sa retraite de la SACEM et devient avocat au barreau de Paris, mais surtout l'homme de confiance de l'ex-coiffeur devenu l'héritier de Maurice Ravel. Lemoine regorge d'idées. Afin de fructifier le magot, il crée une société offshore où il planque les droits d'auteur au soleil des îles Vanuatu et dans une pléiade de comptes anonymes au Panama, à Gibraltar ou aux îles Vierges. La valse des millions d'euros se poursuit, à l'image de l'enivrant crescendo du Boléro. Fuyant la France et ses impôts, Alexandre et Georgette s'exilent à Monaco. Alexandre Taverne décède en 1973, laissant sa moitié pour héritière. Un demi-siècle après sa création, le boléro s'impose comme l'un des totems de la musique française. Les droits d'auteur donnent le vertige. 1 500 000 euros par an, dont 80% proviennent des États-Unis. En France, la manne de ces droits d'auteur s'est tarie en mai 2016, depuis l'entrée du boléro dans le domaine public. Son increvable succès en fait un monument du patrimoine musical français dont les droits d'auteur auront profité à une savoureuse brochette de personnages. Une masseuse, un coiffeur, une manucure, un avocat. Et pourtant, à ce jour, aucun d'eux n'habite en France.
Affaires classées. Un podcast ici.
Boléro et son interminable valse des millions, c'était l'épisode de ce jour dans le podcast. Dans un prochain numéro, nous irons très très loin dans le temps, 7 siècles en arrière, à la rencontre de Gaston Phébus. Vous savez de lui qu'il fut un puissant comte du Béarn. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'un jour, il faillit échapper à un empoisonnement dans son château. Qui voulait donc sa disparition? La réponse est peut-être du côté de la province basque de Navarre. Le sanglant secret de la Tour Moncade, c'est notre prochain numéro dans Affaires classées, le podcast. À bientôt.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
Le satin noir sur son teint blanc, à vous peignoir que c'est troublant, oh oh. À vous c'est troublant. Je noirais bien si pour 10 ans, mais j'en prendrais pour 110 ans, au moins, au moins 110 ans.
payer le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ICI Garlozère.
Bonjour, Alexis, je m'appelle Alexis Issos, je travaille ici au train à vapeur des Cévennes, embauché depuis le mois d'avril en tant que responsable d'exploitation. Et je tourne également sur l'exploitation comme aujourd'hui, hein, donc je suis allumeur et mécanicien. Donc allumeur, ça veut dire que je viens le matin pour allumer la machine. Mécanicien, ça veut dire que je conduis la machine à vapeur. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, toujours attiré. Ça m'a orienté dans mes études, hein. J'ai fait des études de mécanique et je me suis orienté vers le chemin de fer pour exercer, on va dire, mon métier dans un environnement qui m'intéresse et qui m'intéresse particulièrement. Et puis je me suis retrouvé ici un peu par hasard à travailler pour le train vapeur des Cévennes en ayant fait par le passé des stages et puis ensuite du travail saisonnier et du travail au travers d'autres associations. Et puis je me retrouve ici 8 ans plus tard, donc après 8 ans d'expérience là-dedans, à être embauché au train vapeur des Cévennes.
Donc vous avez fait quoi, une école de mécanique traditionnelle?
J'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait vraiment de la mécanique mais beaucoup plus théorique, et c'est peut-être une des raisons qui m'a attiré dans cet univers-là, c'était le côté pratique, le côté de mettre les mains dedans, quelque chose que j'avais beaucoup moins l'opportunité de faire auparavant.
Bon, vous savez réparer tout, les voitures, les motos et les trains?
Non, j'ai pas la prétention de pouvoir tout réparer, non, loin de là, au contraire, je suis toujours ouvert à apprendre de nouvelles compétences, et c'est quelque chose qui m'anime tous les jours dans le travail.
Donc là, c'est quand même voilà, un retour en arrière, un retour à l'époque. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, tout ça?
C'est vrai que c'est un voyage dans le temps. D'une certaine manière, moi, quand je suis tombé là-dedans un peu par hasard, j'ai été émerveillé par le côté historique de cette mécanique ancienne. Et puis, ce qui est fascinant quand on commence à mettre le nez dedans, c'est que la machine à vapeur, c'est, contre toute attente, hein, pas une seule invention. C'est un ensemble d'inventions qui ont permis de créer une machine à vapeur. Et avec le temps, on se rend compte, en apprenant comment fonctionne tout ça, qu'il y a plein de différentes méthodes, mécaniques, systèmes, sous-systèmes, qui composent une machine à vapeur, et c'est ça qui rend ça intéressant.
Mmh. Rien que de regarder les roues de cette locomotive, avec, je ne sais pas comment vous appelez, là,
l'embiellage.
L'embiellage.
C'est l'embiellage.
Mais tout ça, voilà, il fallait l'inventer à l'époque.
Oui, bien sûr. En fait, une machine à vapeur, c'est, comme je le disais, un ensemble d'inventions. Mais là, ce qu'on a devant nous, c'est l'ensemble bielle-manivelle. C'est un piston qui fait tourner une bielle, qui ensuite entraîne une roue. Donc en fait, on transforme un mouvement horizontal en mouvement de rotation. Voilà.
C'est du génie.
C'est du génie, c'est simple. Mais en fait, le génie, ça a été d'agglomérer tout ça et d'en faire quelque chose pour transporter, à l'époque, le charbon, ou on va dire tout ce qui était matière première, et puis ensuite les passagers, et puis d'en faire tout un système de transport.
C'est un métier passion?
C'est un métier, oui, on pourrait appeler ça un métier passion. Je pense que c'est quand même toujours un plus d'être très intéressé, d'être un minimum passionné par son métier.
Merci Alexis.
Merci.
Ici, actu locale, musique et bonne humeur.
Chinoise ondule sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glisse en or et noir tes pas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pliée. centaines sèchent d'immenses gaines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines.
Nos replays et nos podcasts. Un podcast ici de Romardèche.
Voici une carte postale. Nous sommes à Sainte-Eulalie, dans l'atelier de Mathieu. Il représente sans doute le dernier artisan losier-couvreur de la montagne ardéchoise. Son travail capte notre attention lorsque nous croisons une maison traditionnelle dont le toit est recouvert de lauze naturelle. C'est un métier physique avec un savoir-faire peu commun, un engagement pour la conservation d'un patrimoine exceptionnel. Et pour lui, c'était un peu écrit dans son arbre généalogique.
J'étais dans une famille de couvreurs. Mes oncles, en gros, j'ai eu 7 oncles qui étaient couvreurs. Et du coup, mon père, mais depuis tout petit, j'ai appris à poser la lauze de schiste et l'ardoise de Corrèze. Et c'est pour ça, du coup, je suis venu m'installer après en Ardèche. Chez nous, ça, voilà, cette bleu clair, elle vient du côté de Boré. Et chaque lieu avait leur lauze. Alors après, il y a plein de toitures, ils sont mélangés, ils ont mis de la bleue qui n'avait rien à voir chez nous. Ils trouvaient les lauzes là où ils pouvaient les trouver, quoi. Ah ouais, voilà, c'est tout. Donc ça, en fait, le plus gros du travail, c'est la taille. Après, on est lié au climat. Hein. Quand il fait trop froid, c'est pareil. On ne peut pas la tailler parce qu'elle est gelée, la pierre. Alors, du coup, elle explose. Quand il fait des grosses canicules, ben, la lauze bleue, on ne la tient pas dans les mains. C'est particulier, quoi. Ça.
Et les avantages ?
Ben, après, ça dure très, très, très longtemps. On a des toitures, là. Ben, j'en ai une énorme à refaire. Elle date de 1000. La grange date de 1648. Et la lauze est d'origine dessus. Après, il peut grêler, il peut faire du vent, tout ce qu'on veut. Ça ne bouge pas.
Vous savez à quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais devenir artisan loseur?
Je sais pas, je crois que j'ai pas trop eu le choix. Je sais pas, c'est vrai que ça se pose pas trop, parce que vu que je suis né là-dedans, et mon père, les taillait, et avec ma mère, on les calibrait par taille, et j'ai toujours été là-dedans, quoi.
Très tôt, vous avez eu des outils dans les mains?
Les premiers outils, je devais les avoir, ouais, c'est 7-8 ans. Pour ça, il y en a, ils me disent, mais t'es jeune encore, tu peux en faire. J'ai dit oui, mais j'ai attaqué très très jeune, alors tant que le dos suit, c'est bon, mais il faut s'économiser, quoi.
Pourtant, vous avez vu votre papa faire ce métier qui est quand même très dur, très physique, et ça vous a pas arrêté?
Oh non, non, non. Surtout qu'à l'époque, il fallait les monter à l'échelle. On n'avait pas d'élévateur, tout ça. Et c'est que la dureté du métier, je pense, c'est ce qui nous forme. Alors, après, c'est vrai que si j'aurais pas aimé ce métier, je pense que je dois abandonner de suite.
Alors, depuis une paire d'années, Mathieu s'implique dans l'ALC, une association nationale pour former de jeunes losiers. Je vous mets le lien sur notre site internet.
Vous écoutez ici.
Twice. enemy. I